Vous écoutez, on lit pour vous.
Non, les femmes n'ont pas ruiné le monde du travail. Un texte d'Elisabeth Labelle, paru le 18 décembre 2025 dans le magazine Urbania. En novembre 2025, je me suis retrouvé dans une chambre d'hôtel à Rimouski, où je participais comme autrice à mon premier salon du livre. Il faisait froid et venteux. La première neige de l'hiver tombait doucement dehors. À l'abri sous la couette, j'ai ouvert Instagram pour passer le temps et j'ai soudainement été assailli par une déferlante de contenu à propos du New York Times. NYT. Un titre semait les mois dans ma chambre d'écoféministe. Et le même sentiment d'indignation s'est vite répandu dans ma chambre d'hôtel adjacente au Pacini. Le New York Times et le Ragebait féministe. Un chroniqueur de la section opinion du NYT, Ross Douthat, est à l'origine du contenu qui a suscité la controverse. Dans le cadre de son balado Interesting Times, Douthat a réuni deux autrices conservatrices qui jugent que les avancées féministes ont nui au monde du travail. Pour Helen Andrews, le droit et le monde des affaires sont en péril parce qu'ils se sont féminisés, ce qui les a rendus trop woke. En écartant les hommes, les institutions et les entreprises se priveraient de leurs vertus masculines comme la recherche de la vérité et la prise de risque. Pour Lee Libresco-Sargent, le féminisme a contraint les femmes à réprimer leur nature pour s'adapter à des lieux de travail conçus pour les hommes. Au cœur de sa thèse, les femmes et les hommes ne sont pas interchangeables, car il existe entre eux des différences fondamentales. Pendant 60 minutes, les deux autrices abordent comment un féminisme conservateur pourrait redresser la situation. Initialement intitulé « Did Women Ruin the Workplace », le contenu a été renommé « Did liberal feminism ruin the workplace » après le tollé provoqué. Le dictionnaire d'Oxford n'avait pas encore fait de « rage bait » son mot de l'année 2025, mais on peut dire que c'en est l'exemple parfait. La nouvelle version du titre n'a pas su apaiser la colère et de nombreuses personnes ont appelé au boycott du grand quotidien new-yorkais. Newsflash, les femmes ont toujours travaillé. En écoutant cet épisode du balado produit par le New York Times, on pourrait croire que les femmes viennent juste de débarquer sur le marché du travail. Pourtant, des femmes qui punchent des heures, ça ne date pas d'hier. Les femmes ont toujours travaillé, répond l'historienne Camille Robert, que j'ai contactée pour en savoir plus sur la contribution des femmes aux conditions de travail modernes. Ses recherches porte sur l'histoire des femmes, du travail, de l'État, des services publics, du syndicalisme et des mouvements féministes au Québec. Bien avant les années 1980, alors que le travail salarié des femmes n'était pas encore la norme, elles étaient déjà institutrices, gardes-malades, allumetières, ouvrières. Bref, les femmes jonglent avec les responsabilités du travail et de la maison depuis belle lurette. Si on avait à les blâmer de quelque chose, ce serait d'avoir mis le doigt sur les failles d'un système qui épuise et exploite, qui exige une disponibilité totale sans tenir compte des contraintes familiales ou personnelles. Pas très sain ni soutenable à long terme. Allô le burn-out. Heureusement, des féministes ont lutté pour que ça change. Au Québec, on leur doit plusieurs avancées qui ont rendu le monde du travail un peu plus agréable pour tout le monde, pas juste pour les femmes. Merci pour l'équité salariale, le congé parental et le réseau de CPE. Tout au long de leur présence sur le marché de l'emploi, les femmes ont permis d'améliorer les conditions de travail, résume Camille Robert. Quand on parle de qualité de vie au travail ou de conciliation avec la vie personnelle, je ne pense pas que ça aurait été possible sans la mobilisation des femmes. Dès la fin des années 1960, les femmes, notamment des féministes et des femmes issues du milieu syndical, ont porté des revendications liées à la conciliation travail-famille-études. Sans elles, il n'y aurait pas de loi sur l'équité salariale, de régime québécois d'assurance parentale, RQAP, ni le réseau de CPE. Pour Camille Robert, ces femmes ont joué un rôle crucial dans la lutte ayant mené au gain collectif des travailleuses et travailleurs. Ce ne sont pas les patrons qui, de bon gré, ont voulu améliorer les conditions de travail, souligne-t-elle. Même chose du côté des politiques gouvernementales. La plupart des avancées, sinon toutes, ne sont pas des cadeaux du gouvernement. Au Québec, on se vante souvent de nos congés parentaux et de nos garderies à faible coût, mais il a fallu des décennies pour que les femmes les obtiennent. Elles ont dû se mobiliser, notamment avec les syndicats, les groupes communautaires et les groupes féministes, pour casser le party des patrons. La droite instrumentalise le surmenage des femmes. Aux États-Unis, au Canada et ailleurs, la montée des discours conservateurs est inquiétante, pas seulement pour les droits reproductifs, mais aussi pour l'autonomie financière des femmes. Camille Robert partage mon sentiment. Il y a quelque chose de très dangereux qui se met en place. La droite va dire que c'est la faute de la gauche, des féministes, si les femmes se sentent forcées de tout faire, de tout accomplir. Alors, restez au foyer, occupez-vous de vos enfants et comptez plutôt sur votre mari, ironise l'historienne. C'est vrai que le monde du travail est loin d'être parfait et que la pression exercée sur les femmes de tout concilier existe toujours. La droite le sait et elle l'utilise comme argument, fine stratège qu'elle est. Mais la solution n'est pas de baisser les bras et de retourner à nos fourneaux, au contraire. Si on rush encore aujourd'hui, c'est simplement parce qu'il reste encore des luttes à mener, dont certaines amorcées par nos prédécesseurs. Pourquoi ne pourrait-on pas mettre en place des services pour que les femmes n'aient pas à porter cette charge seules? S'interroge Camille Robert. Aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de congés parentaux, pas de soins de santé universels, ni de système de garderie publique. Accoucher coûte plusieurs milliers de dollars. C'est cette question-là qu'aurait dû poser le New York Times. C'était « Non, les femmes n'ont pas ruiné le monde du travail », un texte d'Elisabeth Labelle paru le 18 décembre 2025 dans le magazine Urbania.
Témoins superflus, courriels douteux et mots de passe ingénieux. Un texte d'Alain McKenna, paru le 26 novembre 2025 dans la presse. Diane Blais, une lectrice, demande « Est-il préférable d'accepter ou de refuser les fichiers témoins, cookies, quand on visite un site web? Ont-ils une utilité réelle ou est-ce une menace? Est-ce que les accepter entraîne automatiquement plus de publicité indésirable? Les cookies sont des fichiers témoins qui vous identifient auprès des sites que vous visitez et des régies publicitaires qui s'y trouvent. Ils peuvent servir à d'autres fins aussi. On peut distinguer deux types de témoins. Les essentiels sont utiles, voire indispensables. Ils permettent au site de se souvenir de votre langue préférée, de votre panier d'achat ou de votre connexion. Sans eux, la navigation devient pénible. La menace pour la vie privée vient des témoins publicitaires ou tiers. Ce sont eux qui permettent aux annonceurs de vous suivre de site en site. les accepter n'augmente pas nécessairement le nombre de publicités que vous verrez, mais cela permet aux algorithmes de cibler précisément vos intérêts, ce qui peut donner cette désagréable impression d'être épié. Dans le passé, ces fichiers étaient invisibles pour les internautes. Des mesures comme la loi 25 au Québec et le Règlement général sur la protection des données, RGPD, européen, dont elle s'inspire grandement, obligent les sites à avertir leurs visiteurs quand ils les utilisent. Le choix alors est simple. Choisissez, tout refuser ou continuez sans accepter. Le site fonctionnera quand même très bien grâce aux témoins essentiels, mais sans traceurs publicitaires à vos trousses. Julie Beauchamp, une lectrice, demande « J'ai reçu à quelques reprises des courriels frauduleux. L'adresse d'expédition est la mienne. Je change mon mot de passe chaque fois, mais ça recommence. Comment peuvent-ils m'envoyer un courriel par ma boîte personnelle? » C'est une tactique d'intimidation très efficace qui donne des sueurs froides à bien des gens. Soyez immédiatement rassurés. Dans la vaste majorité des cas, personne n'est entré dans votre compte. Ce phénomène s'appelle du spoofing ou l'usurpation d'identité. Imaginez une lettre envoyée par la poste. N'importe qui peut écrire votre adresse au verso de l'enveloppe comme expéditeur. Le facteur la livrera quand même. Cela ne veut pas dire que la personne possède les clés de votre maison. Les pirates font la même chose en version numérique. Ils utilisent des logiciels pour maquiller l'entête du message et afficher votre adresse ou celle d'un expéditeur de confiance, l'Agence du revenu du Canada, Amazon, Post Canada, sans jamais avoir besoin d'accéder à leur véritable boîte de courriel. Changez votre mot de passe, bien que ce soit une excellente habitude, ne réglera pas ce problème. La seule action requise est de bien identifier l'expéditeur et de supprimer ses messages indésirables sans y répondre et sans cliquer sur les hyperliens et les pièces jointes qu'ils peuvent contenir. Jean Tourigny, un lecteur, demande « Comment les pirates peuvent-ils tenter à plusieurs reprises de deviner le mot de passe d'un utilisateur quand la plupart des sites bloquent l'enregistrement après quelques tentatives infructueuses? » C'est une observation très perspicace qui va à l'encontre de l'image du piratage souvent véhiculée par le cinéma. En réalité, les pirates s'acharnent rarement sur un compte unique en essayant des milliers de combinaisons à la suite, justement à cause de ces blocages. Leur technique de prédilection est le bourrage d'identifiants, credential stuffing. Au lieu de deviner au hasard, ils utilisent des robots pour tester des listes immenses de courriels et de mots de passe déjà volés lors de fuites de données sur des sites peu sécurisés. Ils n'essaient pas de forcer la serrure. Ils essaient simplement la clé que vous utilisez ailleurs. Comme ils ont souvent la bonne combinaison du premier coup, le blocage de sécurité ne se déclenche pas. S'ils doivent faire plusieurs essais, ils utilisent des réseaux d'ordinateurs zombies, botnets. Chaque tentative provient d'une adresse IP différente, ce qui leur permet de rester sous le radar des systèmes qui surveillent les répétitions. C'est un des risques d'utiliser le même mot de passe pour plusieurs de vos identifiants. C'était « Témoins superflus, courriels douteux et mots de passe ingénieux », un texte d'Alain Mekena, paru le 26 novembre 2025 dans la presse.
Voici les services de santé à connaître avant d'aller à l'urgence. Un texte publié le 9 janvier 2026 sur le site de TVA Nouvelles. Quand on est malade ou qu'un proche a un souci de santé, on peut avoir le réflexe de se rendre à l'urgence. Pourtant, ce n'est pas toujours la meilleure option en fonction de son besoin et surtout, ce n'est parfois pas nécessaire. En effet, plusieurs services existent pour orienter les citoyens vers le bon professionnel au bon moment et éviter les longues attentes. Voici des ressources utiles que tout citoyen devrait connaître. 1. Le 811. Le 811, option 1, n'est pas qu'un numéro général de santé. C'est un service de consultation accessible au bout du fil pour parler à une infirmière, obtenir des recommandations et des conseils et être dirigé vers la bonne ressource au besoin. 2. La ligne pédiatrique d'InfoSanté. Pour les parents, le 811 offre aussi une ligne prioritaire pour les enfants de 0 à 17 ans qui permet de discuter avec une infirmière qui évalue la situation de l'enfant et prodigue des conseils adaptés. Dans de nombreux cas, les maladies courantes comme le rhume, la grippe ou la gastro peuvent être gérées à la maison à l'aide de tels conseils. 3. Les soins à la maison, auto-soins, et les conseils du pharmacien. En saison hivernale, où plusieurs virus circulent, il n'est pas rare que des symptômes comme la fièvre, la toux ou l'écoulement nasal puissent être pris en charge chez vous en suivant les conseils de votre pharmacien. Il est souvent le premier professionnel à consulter pour des questions de santé mineure. Celui-ci peut recommander des traitements en vente libre et prodiguer des conseils personnalisés selon l'âge et l'état de santé. 4. Le guichet d'accès à la première ligne, GAP. Le GAP est une ressource destinée aux Québécois et Québécoises qui n'ont pas de médecin de famille ni d'infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne. Il aide à trouver le service le plus approprié à votre situation. Si votre situation nécessite une évaluation clinique, vous pouvez faire une demande en ligne en utilisant le GAP numérique ou par téléphone au 811, option 3, afin qu'un intervenant vous rappelle pour vous guider vers le service adéquat. Connaître ces ressources permet de recevoir des soins adaptés plus rapidement. Un simple appel au 811, une consultation des conseils disponibles sur le site du gouvernement du Québec ou une visite chez le pharmacien peut souvent suffire à régler la situation. Il existe d'autres options que l'urgence. Informez-vous au québec.ca/accès-santé. C'était Voici les services de santé à connaître avant d'aller à l'urgence. Un texte publié le 9 janvier 2026 sur le site de TVA Nouvelles.
Espace sécuritaire. Qu'est-ce que cela signifie dans la vie quotidienne? Un texte de Paul-André Gauthier, publié le 15 décembre 2025 dans Le Voyageur. Un autre aspect d'un espace sécuritaire est la liberté de ne pas jouer ou de ne pas être soi-même. Dans la vie de tous les jours, beaucoup de personnes de SLGBTQI+, ressentent la pression de se modérer, d'utiliser différents pronoms, de cacher leurs relations ou de faire semblant d'aller bien alors que ce n'est pas le cas. Un véritable espace sécuritaire soulage cette pression. Quelqu'un peut se présenter vêtu de vêtements qui reflètent qui il est, utiliser le nom qui lui rappelle un chez-soi ou parler ouvertement de quelqu'un qu'il aime. S'il préfère observer tranquillement, c'est aussi bienvenu. Il n'y a pas de scénario, pas besoin de correspondre à l'idée du confort de quelqu'un d'autre. Un espace sécuritaire signifie aussi une sécurité émotionnelle, parfois plus difficile à voir mais profondément ressentie. C'est le genre de pièce où, si quelqu'un partage, il a été mégenré au travail, les autres ne balaient pas ça du revers de la main mais écoutent et comprennent pourquoi c'était important. Ou un jeune qui remet en question son identité peut dire « Je suis encore en train de comprendre ce que je suis » et personne ne le presse ou ne suggère qu'il devrait déjà avoir des réponses. Ces espaces deviennent un terrain plus doux pour les personnes qui peuvent passer leur journée à marcher sur des œufs. Ils permettent des conversations honnêtes sans craindre que la vulnérabilité ne se retourne contre lui. Un espace sécuritaire pour les personnes de la communauté de SLGBTQI+, est, dans sa forme la plus simple, un endroit où les gens peuvent souffler un peu plus facilement. C'est quand quelqu'un n'a pas à répéter ses mots dans sa tête avant de parler ou à scruter la pièce pour deviner s'il est sécuritaire de mentionner son partenaire ou son identité. Imaginez quelqu'un qui entre dans une pièce et se sent enfin à l'aise parce qu'il n'a plus besoin de s'expliquer. Ce sentiment, ce soulagement silencieux, est souvent ce qu'offre un espace sécuritaire. Dans un monde où beaucoup font encore face au jugement ou à l'incompréhension, avoir un endroit où ils peuvent simplement être eux-mêmes n'est pas un luxe, c'est nécessaire. Parfois, les gens parlent des espaces sécuritaires comme s'ils étaient optionnels, quelque chose de bien à avoir si le temps ou les ressources les permettent. Mais, pour de nombreuses personnes dans la communauté de SLGBTQI+, les espaces sécuritaires ne sont pas seulement utiles, ils préservent la vie. Ce sont des endroits où les gens peuvent enfin respirer après des jours, voire des années, à se retenir fermement. Quand on y pense, tout le monde mérite au moins un endroit où il se sent compris, respecté et accueilli sans condition. C'est pourquoi définir ce qu'est vraiment un espace sécuritaire est important, car cela nous rappelle que l'appartenance ne peut pas être supposée, elle doit être créée avec soin. Surtout, les espaces sécuritaires aident les gens à trouver des liens et une communauté. Parfois, ça peut ressembler à un nouveau venu assis à côté de quelqu'un qui dit doucement « Tu es le bienvenu ici, prends ton temps ». Ou un groupe qui rit d'expériences partagées, qui à l'extérieur de cette pièce pourrait sembler isolante. Ou même la simple prise de conscience qu'il y a d'autres qui comprennent exactement ce qu'ils portent. Ces petits moments créent un sentiment d'appartenance, celui qui rappelle aux gens qu'ils ne sont pas seuls, que leur identité compte, et que le fait d'être pleinement vu peut être guérisseur. Un espace sécuritaire qui ne résout peut-être pas tout, mais il peut offrir la force et la compagnie dont les gens ont besoin pour naviguer dans le monde avec un peu plus de confiance. Aussi, certains pourraient développer des amitiés et gagner des alliés. Dans les milieux de santé, un espace sécuritaire signifie que les personnes de SLGBTQI+, peuvent faire confiance aux personnes qui prennent soin d'elles. Cela signifie qu'un professionnel de la santé ne s'arrête pas avant d'écrire le nom de son partenaire sur un formulaire d'admission ou qu'une personne trans n'évite pas les soins par peur d'être regardée ou mal genrée. Pensez à une clinique où on demande gentiment à quelqu'un « Quel est le nom et quel prénom aimeriez-vous que nous utilisions ?» ou une salle d'attente d'hôpital où le personnel intervient en cas de remarques discriminatoires. Lorsque les équipes de soins comprennent que la dignité fait partie du traitement et non un supplément optionnel, les gens reçoivent de meilleurs soins, posent des questions plus ouvertement et se sentent plus en sécurité pour revenir lorsqu'ils ont besoin d'aide. Être soutenu par des alliés, le respect transmis de façon constante est ce qui rend la guérison possible. En éducation, les espaces sécuritaires permettent aux élèves et au personnel d'apprendre et de grandir sans crainte. Cela peut être une classe où un élève peut parler fièrement de ses deux mères sans entendre de chuchotement, ou un corridor où un élève non-binaire se sent à l'aise de corriger un enseignant qui répond ensuite avec gratitude plutôt qu'inconfort. Des écoles sécuritaires signifient aussi que le personnel intervient rapidement en cas d'intimidation plutôt que d'attendre que les élèves se défendent seuls. Avoir des alliés à l'école. Lorsque l'inclusion devient une partie de la façon dont l'école se perçoit, les élèves de SLGBTQI+, peuvent se concentrer sur l'apprentissage, l'imagination de leur avenir et la construction de leur confiance au lieu d'essayer de ne pas être ciblés. Pas seulement les élèves ou les étudiants, mais aussi des employés de SLGBTQI+, ont besoin de soutien également. Dans les organisations communautaires, les espaces sécuritaires deviennent des piliers d'ancrage. Ce sont les endroits vers lesquels les gens se tournent quand ils ont besoin de connexion sans jugement. Cela pourrait ressembler à un centre communautaire organisant un événement mensuel où les gens peuvent parler d'identité ou de relations dont ils ne peuvent pas parler en toute sécurité ailleurs. Ça pourrait être un groupe de jeunes où quelqu'un dit doucement « Je pense que je suis peut-être queer » et les adultes sourient simplement et disent « Merci de nous faire confiance ». Les organisations communautaires peuvent montrer l'inclusion de façon visible, comme poster des affiches d'affirmation, collaborer avec des groupes de la fierté ou former des bénévoles pour soutenir les gens avec compassion lors des moments difficiles. Avoir des alliés tout autour pour soutenir les personnes de SLGBTQI+. Lorsque ces organisations offrent de l'affirmation plutôt que de l'hésitation, elles deviennent des bouées de sauvetage. En milieu de travail, les espaces sécuritaires aident les employés de SLGBTQI+ à s'épanouir plutôt que de simplement faire face. Imaginez une réunion d'équipe où quelqu'un peut mentionner son partenaire naturellement, de la même façon que les autres sans pose gênante. Ou imaginez un milieu de travail qui ne se contente pas d'exprimer son soutien, mais qui le montre à travers des toilettes tout genre, des options de pronoms sur les badges, ou des superviseurs qui prennent des nouvelles discrètement mais sincèrement. Même quelque chose de modeste, comme un gestionnaire qui dit « Votre sécurité, votre confort compte pour nous », peut changer toute une culture. Lorsque les employés de SLGBTQI+, savent qu'ils ne perdront pas d'opportunités, de respect ou de sécurité à cause de leur identité, ils peuvent contribuer pleinement et avec confiance, enrichissant ainsi le milieu de travail pour tous. En conclusion, les espaces sécuritaires ne sont pas une question de traitement de faveur. Ils parlent d'équité, d'humanité, de la simple vérité que chacun mérite de se sentir en sécurité dans sa peau. Lorsque nous nous engageons à créer des environnements où les personnes de SLGBTQI+, peuvent respirer, parler, apprendre, travailler et chercher des soins sans peur, nous renforçons nos communautés, nos institutions et notre sentiment partagé de dignité. Un espace sécuritaire, c'est vraiment juste une promesse qui dit « Tu comptes ici, vous êtes les bienvenus ici, tu n'as pas à te cacher ». Et quand cette promesse est tenue, les gens s'épanouissent, ils deviennent plus eux-mêmes, et ce faisant, ils nous aident tous à bâtir des communautés plus plaisantes, plus sages, respectueuses et plus profondément humaines. C'était « Sécuritaire ». Qu'est-ce que cela signifie dans la vie quotidienne ? Un texte de Paul-André Gauthier, publié le 15 décembre 2025 dans Le Voyageur.